Denis Diderot, la religieuse. À peine la supérieure eut-elle reçu l'acte juridique de ma demande qu'elle accourut dans ma cellule. « Comment, sœur Sainte-Suzanne, me dit-elle, vous voulez nous quitter ?»«
Oui, madame. » »«
Et vous allez appeler de vos vœux ?»«
Oui, madame. » »«
Ne les avez-vous pas fait librement ?»«
Non, madame. » »«
Et qui est-ce qui vous a contrainte ?»
Tout.
Monsieur votre père ?
Mon père.
Madame votre mère ?
Elle-même.
Et pourquoi ne pas réclamer au pied des autels ? J'étais si peu à moi que je ne me rappelle pas même d'y avoir assisté.
Pouvez-vous parler ainsi ?
Je dis la vérité.
Quoi ?
Vous n'avez pas entendu le prêtre vous demander « Sœur Sainte-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu obéissance, chasteté et pauvreté. »
Je n'en ai pas mémoire.
Vous n'avez pas répondu « Oui ?»
Je n'en ai pas mémoire.
Et vous imaginez que les hommes vous en croiront ?
Ils m'en croiront ou non, mais le fait n'en sera pas moins vrai.
Cher enfant, si de pareils prétextes étaient écoutés, voyez quels abus ils s'en suivraient. Vous avez fait une démarche inconsidérée, vous vous êtes laissé entraîner par un sentiment de vengeance. Vous avez à cœur les sentiments que vous m'avez obligé de vous infliger. Vous avez cru qu'il suffisait pour rompre vos vœux. Vous vous êtes trompé. Cela ne se peut ni devant les hommes, ni devant Dieu. Songez que le parjure est le plus grand de tous les crimes, que vous l'avez déjà commis dans votre cœur, et que vous allez le consommer.
Je ne serai point parjure, je n'ai rien juré.
Et si l'on a eu quelque tort avec vous, n'ont-ils pas été réparés ?
Ce ne sont point ces torts qui m'ont déterminé.
Qu'est-ce donc ? Le défaut de vocation, le défaut de liberté dans mes vœux. Si vous n'étiez point appelée, si vous étiez contrainte, que ne le disiez-vous quand il en était temps ?
Et à quoi cela m'aurait-il servi ?
Que ne montriez-vous la même fermeté que vous eûtes à Sainte-Marie ? Est-ce que la fermeté dépend de nous ? Je fus ferme la première fois. La seconde, j'étais imbécile. Que n'appeliez-vous un homme de loi ? Que ne protestiez-vous ? Vous avez eu les 24 heures pour constater votre regret.
Savais-je rien de ces formalités ?
Quand je les aurais sues, étais-je en état d'en user ? Quand j'aurais été en état d'en user, l'aurais-je pu ? Quoi, madame, ne vous êtes-vous pas aperçue vous-même de mon aliénation ? Si je vous prends à témoin, jurerez-vous que j'étais saine d'esprit ?
Je le jurerai.
Eh bien, madame, c'est vous et non pas moi qui serez parjure. Mon enfant, vous allez faire un éclat inutile. Revenez à vous. Je vous en conjure par votre propre intérêt, par celui de la maison. Ces sortes d'affaires ne se suivent point sans des discussions scandaleuses.
Ce ne sera pas ma faute.
Les gens du monde sont méchants. On fera les suppositions les plus défavorables à votre esprit, à votre cœur, à vos mœurs. On croira
tout ce qu'on voudra.
Mais parlez-moi à cœur ouvert. Si vous avez quelque mécontentement secret, quel qu'il soit, il y a du remède.
J'étais, je suis et je serai toute ma vie mécontente de mon état.
L'esprit séducteur qui nous environne sans cesse et qui cherche à nous perdre, aurait-il profité de la liberté trop grande qu'on vous a accordée depuis peu pour vous inspirer quelques penchants funestes ?
Non, madame. Vous savez que je ne fais pas un serment sans peine. J'atteste Dieu que mon cœur est innocent et qu'il n'y eut jamais aucun sentiment honteux.
Cela ne se conçoit pas.
Rien, cependant, madame, n'est plus facile à concevoir. Chacun a son caractère, et j'ai le mien. Vous aimez la vie monastique, et je la hais. Vous avez reçu de Dieu les grâces de votre état, et elles me manquent toutes. Vous vous seriez perdu dans le monde, et vous assurez ici votre salut. Je me perdrais ici, et j'espère me sauver dans le monde. je suis et je serai une mauvaise religieuse.
Pourquoi ? Personne ne remplit mieux ses devoirs que vous.
Mais c'est avec peine et à contre-cœur.
Vous en méritez davantage.
Personne ne peut savoir mieux que moi ce que je mérite, et je suis forcée de m'avouer qu'en me soumettant à tout, je ne mérite rien. Je suis lasse d'être une hypocrite. En faisant ce qui sauve les autres, je me déteste et je me damne. En un mot, madame, je ne connais de véritables religieuses que celles qui sont retenues ici par leur goût pour la retraite et qui y resteraient quand elles n'auraient autour d'elles ni grilles ni murailles qui les retinssent. Il s'en manque bien que je sois de ce nombre. Mon corps est ici, mais mon cœur n'y est pas. Il est au dehors. Et s'il fallait opter entre la mort et la clôture perpétuelle, je ne balancerais pas à mourir. Voilà mes sentiments.
Quoi ? Vous quitterez sans remords ce voile, ces vêtements qui vous ont consacrés à Jésus-Christ ?
Oui, madame, parce que je les ai pris sans réflexion et sans liberté.
Je lui répondis avec bien de la modération, car ce n'était pas là ce que mon cœur me suggérait. Il me disait « Oh, que ne suis-je au moment où je pourrais les déchirer et les jeter loin de moi ?» Cependant, ma réponse l'atterra. Elle pâlit, elle voulut encore parler, mais ses lèvres tremblaient. Elle ne savait pas trop ce qu'elle avait encore à me dire. Je me promenais à grands pas dans ma cellule et elle s'écriait « Oh mon Dieu, que diront nos sœurs ? Oh Jésus, jetez sur elles un regard de pitié. Sœur Sainte Suzanne !»«
Madame,
c'est donc un parti pris. Vous voulez nous déshonorer, nous rendre et devenir la fable publique ?» Vous perdre ?
Je veux sortir d'ici.
Mais si ce n'est que la maison qui vous déplaise ?
C'est la maison, c'est mon état, c'est la religion. Je ne veux être enfermée ni ici, ni ailleurs.
Mon enfant, vous êtes possédée du démon. C'est lui qui vous agite, qui vous fait parler, qui vous transporte. Rien n'est plus vrai. Voyez dans quel état vous êtes.
En effet, je jetai les yeux sur moi, et je vis que ma robe était en désordre, que ma guimpe s'était retournée presque sans devant derrière, et que mon voile était tombé sur mes épaules. J'étais ennuyée des propos de cette méchante supérieure, qui n'avait avec moi qu'un ton radouci et faux. Et je lui dis avec dépit, « Non, madame, non, je ne veux plus de ce vêtement, je n'en veux plus. » Cependant, je tâchais de rajuster mon voile. Mes mains tremblaient. Et plus je m'efforçais à l'arranger, plus je le dérangeais. Impatienté, je le saisis avec violence. Je l'arrachai, je le jetai par terre, et je restai devant ma supérieure, le front ceint d'un bandeau et la tête échevelée. Cependant, elle, incertaine si elle devait rester ou sortir, allait et venait en disant « Oh Jésus !» Elle est possédée. Rien n'est plus vrai. Elle est possédée. » Et l'hypocrite se signait avec la croix de son rosaire. Je ne tardai pas à revenir à moi. Je sentis l'indécence de mon état et l'imprudence de mes discours. Je me composai de mon mieux. Je ramassai mon voile et je le remis. Puis, me tournant vers elle, je lui dis « Madame, je ne suis ni folle ni possédée. Je suis honteuse de mes violences et je vous en demande pardon. Mais jugez par là combien l'état de religieuse me convient peu et combien il est juste que je cherche à m'en tirer, si je puis. » Elle, sans m'écouter, répétait « Que dira le monde ? Que diront nos sœurs ?»« Madame, lui dis-je, voulez-vous éviter un éclat ? Il y aurait un moyen. »
Je ne cours point après ma dot, je ne demande que la liberté. Je ne dis point que vous m'ouvriez les portes, mais faites seulement aujourd'hui, demain, après, qu'elles soient mal gardées, et ne vous apercevez de mon évasion que le plus tard que vous pourrez.
Malheureuse, qu'osez-vous me proposer ?
Un conseil qu'une bonne et sage supérieure devrait suivre, avec toutes celles pour qui leur couvent est une prison. Et le couvent en est une pour moi mille fois plus affreuse que celle qui renferme les malfaiteurs. Il faut que j'en sorte,
ou que j'y périsse. Madame, lui dis-je en prenant un ton grave et un regard assuré, écoutez-moi. Si les lois auxquelles je me suis adressé trompaient mon attente, et que, poussé par des mouvements d'un désespoir que je ne connais que trop, vous avez un puits, il y a des fenêtres dans la maison. Partout on a des murs devant soi, on a un vêtement qu'on peut dépecer, des mains dont on peut user. Arrêtez, malheureuse! Vous me faites frémir! Quoi? Vous pourriez...
Je pourrais, au défaut de tout ce qui finit brusquement les maux de la vie, repousser les aliments. On est maître de boire et de manger, ou de n'en rien faire. S'il arrivait, après ce que je viens de vous dire, que j'eusse le courage, et vous savez que je n'en manque pas, et qu'il en faut plus quelquefois pour vivre que pour mourir, transportez-vous au jugement de Dieu, et dites-moi laquelle, de la supérieure ou de sa religieuse, lui semblerait la plus coupable. Madame, je ne redemande, ni ne redemanderai jamais rien à la maison. Épargnez-moi un forfait, épargnez-vous de longs remords. Concertons ensemble.
Y pensez-vous, sœur Sainte Suzanne, que je manque au premier de mes devoirs, que je donne les mains au crime, que je partage un sacrilège?
Le vrai sacrilège, madame. C'est moi qui le commets tous les jours en profanant par le mépris les habits sacrés que je porte. Ôtez-les-moi, j'en suis indigne. Faites chercher dans le village les haillons de la paysanne la plus pauvre et que la clôture me soit entr'ouverte.
Mais où irez-vous pour être mieux?
Je ne sais où j'irai, mais on est mal qu'où Dieu ne vous veut point et Dieu ne me veut point ici.
Vous n'avez rien.
Il est vrai, mais l'indigence n'est pas ce que je crains le plus.
Craignez les désordres auxquels elle entraîne.
Le passé me répond de l'avenir. Si j'avais voulu écouter le crime, je serais libre. Mais s'il me convient de sortir de cette maison, ce sera ou de votre consentement, ou par l'autorité des lois. Vous pouvez opter...
Cette conversation avait duré. En me la rappelant, je rougis des choses indiscrètes et ridicules que j'avais faites et dites, mais il était trop tard. La supérieure en était encore à ses exclamations. Que dira le monde? Que diront nos sœurs?
Lorsque la cloche qui nous appelait à l'office vint nous séparer, elle me dit en me quittant,
sœur Sainte Suzanne, vous allez à l'église. Demandez à Dieu qu'il vous touche et qu'il vous rende l'esprit de votre état. Interrogez votre conscience et croyez ce qu'elle vous dira. Il est impossible qu'elle ne vous fasse des reproches. Je vous dispense du champ.
Nous descendîmes presque ensemble. L'office s'acheva. À la fin de l'office, lorsque toutes les sœurs étaient sur le point de se séparer, elle frappa sur son bréviaire et les arrêta.
Mes sœurs, leur dit-elle, je vous invite à vous jeter aux pieds des autels et à implorer la miséricorde de Dieu sur une religieuse qui l'a abandonnée, qui a perdu le goût et l'esprit de la religion et qui est sur le point de se porter à une action sacrilège aux yeux de Dieu et honteuse aux yeux des hommes.
Je ne saurais vous peindre la surprise générale. En un clin d'œil, chacune, sans se remuer, eut parcouru le visage de ses compagnes, cherchant à démêler la coupable à son embarras. Toutes se prosternèrent et prièrent en silence. Au bout d'un espace de temps assez considérable, la prieure entonna à voix basse le Veni Creator, et toutes continuèrent à voix basse le Veni Creator. Puis, après un second silence, la prieure frappa sur son pupitre et l'on sortit. Je vous laisse à penser le murmure qui s'éleva dans la communauté.
Qui est-ce? Qui n'est-ce pas? Qu'a-t-elle fait? Que veut-elle faire?
Ces soupçons ne durèrent pas longtemps. Ma demande commençait à faire du bruit dans le monde. Je recevais des visites sans fin. Les uns m'apportaient des reproches, d'autres m'apportaient des conseils. J'étais approuvé des uns, j'étais blâmé des autres. Je n'avais qu'un moyen de me justifier aux yeux de tous,
c'était de les instruire de la conduite de mes parents. Et vous concevez quel ménagement j'avais à garder sur ce point. Il n'y avait que quelques personnes qui me restèrent sincèrement attachées. Et M. Manoury, qui s'était chargé de mon affaire, à qui je puisse m'ouvrir entièrement. Lorsque j'étais effrayée des tourments dont j'étais menacée, ce cachot où j'avais été traînée une fois se représentait à mon imagination dans toute son horreur. Je connaissais la fureur des religieuses. Je communiquai mes craintes à M. Manoury et il me dit « Il est impossible de vous éviter toutes sortes de peines. Vous en aurez. Vous avez dû vous y attendre. Il faut vous armer de patience et vous soutenir par l'espoir qu'elles finiront. Pour ce cachot, je vous promets que vous n'y rentrerez jamais. C'est mon affaire. » En effet, quelques jours après, il apporta un ordre à la supérieure de me représenter toutes et quantes fois qu'elle en serait requise. Le lendemain, après l'office, je fus encore recommandée aux prières publiques de la communauté. L'on pria en silence et l'on dit à voix basse le même hymne que la veille. Même cérémonie le troisième jour, avec cette différence que l'on m'ordonna de me placer debout au milieu du chœur et que l'on récita les prières pour les agonisants, les litanies des saints, avec le refrain « Ora pro ea ». Le quatrième jour, ce fut une momerie qui marquait bien le caractère bizarre de la supérieure. À la fin de l'office, on me fit coucher dans une bière au milieu du chœur. On plaça des chandeliers à mes côtés avec un bénitier. On me couvrit d'un suaire et l'on récita l'office des morts, après lequel chaque religieuse, en sortant, me jeta de l'eau bénite en disant « Requiescat in pace ». Il faut entendre la langue des couvents pour connaître l'espèce de menace contenue dans ces derniers mots. Deux religieuses relevèrent le suaire, éteignirent les cierges et me laissèrent là, trempée jusqu'à la peau de l'eau dont elles m'avaient malicieusement arrosée. Mes habits se séchèrent sur moi. Je n'avais pas de quoi me rechanger. Cette mortification fut suivie d'une autre. La communauté s'assembla, on me regarda comme une réprouvée. Ma démarche fut traitée d'apostasie. Et l'on défendit, sous peine de désobéissance, à toutes les religieuses de me parler, de me secourir, de m'approcher et de toucher même aux choses qui m'auraient servi. Ces ordres furent exécutés à la rigueur. Nos corridors sont étroits. Deux personnes ont, en quelques endroits, de la peine à passer de front. Si j'allais, et qu'une religieuse vint à moi, ou elle retournait sur ses pas, ou elle se collait contre le mur, tenant son voile et son vêtement, de crainte qu'il ne frottât contre le mien. Si l'on avait quelque chose à recevoir de moi, je le posais à terre, et on le prenait avec un linge. Si l'on avait quelque chose à me donner, on me le jetait. Si l'on avait eu le malheur de me toucher, l'on se croyait souillé et l'on allait s'en confesser et s'en faire absoudre chez la supérieure. On a dit que la flatterie était vile et basse. Elle est encore bien cruelle et bien ingénieuse lorsqu'elle se propose de plaire par les mortifications qu'elle invente. Combien de fois je me suis rappelé le mot de ma céleste supérieure de Moni. Entre toutes ces créatures que vous voyez autour de moi, si dociles, si innocentes, si douces, eh bien, mon enfant, il n'y en a presque pas une, non, presque pas une dont je ne puisse faire une bête féroce. Étrange métamorphose pour laquelle la disposition est d'autant plus grande qu'on est entré plus jeune dans une cellule et que l'on connaît moins la vie sociale. Ce discours vous étonne. Dieu vous préserve d'en éprouver la vérité. Sœur Suzanne, la bonne religieuse est celle qui apporte dans le cloître quelques grandes fautes à expier. Je fus privée de tous les emplois. À l'église, on laissait une stalle vide à chaque côté de celle que j'occupais. J'étais seule à une table au réfectoire. On ne m'y servait pas. j'étais obligée d'aller dans la cuisine demander ma portion. La première fois, la sœur cuisinière me cria « N'entrez pas, éloignez-vous !» Je lui obéis. « Que voulez-vous ?»« À manger. »« À manger ? Vous n'êtes pas digne de vivre !» Quelquefois, je m'en retournais et je passais la journée sans rien prendre. Quelquefois, j'insistais et l'on me mettait sur le seuil des mets qu'on aurait eu honte de présenter à des animaux. Je les ramassais en pleurant et je m'en allais. Arrivais-je quelquefois à la porte du cœur la dernière, je la trouvais fermée. Je m'y mettais à genoux, et là, j'attendais la fin de l'office. Si c'était au jardin, je m'en retournais dans ma cellule. Cependant, mes forces s'affaiblissant par le peu de nourriture, la mauvaise qualité de celle que je prenais, et plus encore par la peine que j'avais à supporter tant de marques réitérées d'inhumanité, je sentis que si je persistais à souffrir sans me plaindre, je ne verrais jamais la fin de mon procès. Je me déterminai donc à parler à la supérieure. J'étais à moitié morte de frayeur. J'allais cependant frapper doucement à sa porte. Elle ouvrit. À ma vue, elle recula plusieurs pas en arrière en me criant « Apostate, éloignez-vous !» Je m'éloignais. « Encore !» Je m'éloignais encore. « Que voulez-vous ? » Puisque ni Dieu ni les hommes ne m'ont point condamné à mourir, je veux, madame, que vous ordonniez qu'on me fasse vivre. « Vivre ? » me dit-elle en me répétant le propos de la sœur cuisinière. « En êtes-vous digne ? » Il n'y a que Dieu qu'il sache. Mais je vous préviens que si l'on me refuse la nourriture, je serai forcée d'emporter mes plaintes à ceux qui m'ont acceptée sous leur protection. Je ne suis ici qu'en dépôt, jusqu'à ce que mon sort et mon état soient décidés. « Allez !» me dit-elle. « Ne me souillez pas de vos regards. J'y pourvoirai. » Je m'en allai, et elle ferma sa porte avec violence. Elle donna ses ordres, apparemment, mais je n'en fus guère mieux soignée. On se faisait un mérite de lui désobéir. On me jetait les mets les plus grossiers. Encore, les gâtait-on avec de la cendre et toutes sortes d'ordures. Voilà la vie que j'ai menée tant que mon procès a duré. Le parloir ne me fut pas tout à fait interdit. On ne pouvait m'ôter la liberté de conférer avec mes juges ni avec mon avocat. Encore, celui-ci fut-il obligé d'employer plusieurs fois la menace pour obtenir de me voir. Alors, une sœur m'accompagnait. Elle se plaignait si je parlais bas. Elle s'impatientait si je restais trop. Elle m'interrompait, me démentait, me contredisait, répétait à la supérieure mes discours, les altérait, les empoisonnait, m'en supposait même que je n'avais pas tenu, que sais-je. On en vint jusqu'à me voler, me dépouiller, m'ôter mes chaises, mes couvertures et mes matelas. On ne me donnait plus de linge blanc. Mes vêtements se déchiraient, j'étais presque sans bas et sans souliers. J'avais peine à obtenir de l'eau. J'ai plusieurs fois été obligée d'en aller chercher moi-même au puits, à ce puits dont je vous ai parlé. On me cassa mes vaisseaux. Alors j'en étais réduite à boire l'eau que j'avais tirée, sans en pouvoir emporter. Si je passais sous des fenêtres, j'étais obligée de fuir ou de m'exposer à recevoir les immondices des cellules. Quelques sœurs m'ont craché au visage. J'étais devenue d'une malpropreté hideuse. Comme on craignait les plaintes que je pouvais faire à nos directeurs, la confession fut interdite. Un jour de grande fête, c'était, je crois, le jour de l'Ascension, on embarrassa ma serrure. Je ne pus aller à la messe. Et j'aurais peut-être manqué à tous les autres offices sans la visite de M. Manoury, à qui l'on dit d'abord que l'on ne savait pas ce que j'étais devenue, qu'on ne me voyait plus et que je ne faisais aucune action de christianisme. Cependant, à force de me tourmenter, j'abattis ma serrure et je me rendis à la porte du cœur que je trouvais fermée, comme il arrivait lorsque je ne venais pas des premières. J'étais couchée à terre, la tête et le dos appuyés contre un des murs, les bras croisés sur la poitrine, et le reste de mon corps étendu fermait le passage. Lorsque l'office finit et que les religieuses se présentèrent pour sortir, la première s'arrêta tout court. Les autres arrivèrent à sa suite. La supérieure se douta de ce que c'était et dit « Marchez sur elle, ce n'est qu'un cadavre !» Quelques-unes obéirent et me foulèrent aux pieds. D'autres furent moins inhumaines, mais aucune n'osa me tendre la main pour me relever. Tandis que j'étais absente, on enleva de ma cellule mon prie-Dieu, le portrait de notre fondatrice, les autres images pieuses, le crucifix. Et il ne me resta que celui que je portais à mon rosaire, qu'on ne me laissa pas longtemps. Je vivais donc entre quatre murailles nues, dans une chambre sans porte, sans chaise, debout ou sur une paillasse, sans aucun des vaisseaux les plus nécessaires, forcée de sortir la nuit pour satisfaire aux besoins de la nature, et accusée le matin de troubler le repos de la maison, d'errer et de devenir folle. Comme ma cellule ne fermait plus, on entrait pendant la nuit. En tumulte, on criait, on tirait mon lit, on cassait mes fenêtres, on me faisait toutes sortes de terreurs. Le bruit montait à l'étage au-dessus, descendait l'étage au-dessous, et celles qui n'étaient pas du complot disaient qu'il se passait dans ma chambre des choses étranges, qu'elles avaient entendu des voix lugubres, des cris, des cliquetis de chaînes, et que je conversais avec les revenants et les mauvais esprits, qu'il fallait que j'eusse fait un pacte et qu'il faudrait incessamment déserter de mon corridor. Il y a dans les communautés des têtes faibles. C'est même le grand nombre. Celles-là croyaient ce qu'on leur disait. N'osaient passer devant ma porte, me voyaient dans leur imagination troublée avec une figure hideuse, faisaient le signe de la croix à ma rencontre et s'enfuyaient en criant « Satan, éloignez-vous de moi, mon Dieu, venez à mon secours !» Une des plus jeunes était au fond du corridor. J'allais à elle et il n'y avait pas moyen de m'éviter. La frayeur la plus terrible la prit. D'abord, elle se tourna le visage contre le mur, marmottant d'une voix tremblante « mon Dieu, Jésus, Marie !» Cependant, j'avançais. Quand elle me sentit près d'elle, elle se couvre le visage de ses deux mains de peur de me voir, s'élance de mon côté, se précipice avec violence entre mes bras et s'écrie « à moi, miséricorde, je suis perdue! Sœur Sainte-Suzanne, ne me faites point de mal! Sœur Sainte-Suzanne, ayez pitié de moi !» Et en disant ces mots, la voilà qui tombe, renversée à moitié morte sur le carreau. On accourt à ses cris, on l'emporte, et je ne saurais vous dire comment cette aventure fut travestie. On en fit l'histoire la plus criminelle. On dit que le démon de l'impureté s'était emparé de moi. On me supposa des desseins, des actions que je n'ose nommer, et des désirs bizarres auxquels on attribua le désordre évident dans lequel la jeune religieuse s'était trouvée. En vérité, je ne suis pas un homme, et je ne sais ce qu'on peut imaginer d'une femme et d'une autre femme, et moins encore d'une femme seule. Cependant, comme mon lit était sans rideau, et qu'on entrait dans ma chambre à toute heure, que vous dirais-je, monsieur? Il faut qu'avec toute leur retenue extérieure, la modestie de leur regard, la chasteté de leur expression, ces femmes aient le cœur bien corrompu. Elles savent du moins qu'on commet seul des actions déshonnêtes, et moi je ne le sais pas. Aussi n'ai-je jamais bien compris ce dont elles m'accusaient, et elles s'exprimaient en des termes si obscurs que je n'ai jamais su ce qu'il y avait à leur répondre. Je ne finirai point si je voulais suivre ce détail de persécution. Ah, monsieur, si vous avez des enfants, apprenez par mon sort celui que vous leur préparez. Si vous souffrez qu'ils entrent en religion sans les marques de la vocation la plus forte et la plus décidée. Qu'on est injuste dans le monde. On permet à un enfant de disposer de sa liberté à un âge où il ne lui est pas permis de disposer d'un écu. Tuez plutôt votre fille que de l'emprisonner dans un cloître malgré elle. Oui, tuez-la. Combien j'ai désiré de fois d'avoir été étouffée par ma mère en naissant. Elle eût été moins cruelle. Croiriez-vous bien qu'on m'ôta mon bréviaire et qu'on me défendit de prier Dieu? Vous pensez bien que je n'obéis pas. Hélas, c'était mon unique consolation. J'élevais mes mains vers le ciel, je poussais des cris, et j'osais espérer qu'ils étaient entendus du seul être qui voyait toute ma misère. On écoutait à ma porte, et un jour je m'adressais à lui dans l'accablement de mon cœur, et que je l'appelais à mon aide, on me dit « Vous appelez Dieu en vain, il n'y a plus de Dieu pour vous. Mourez désespérés et soyez damnés !» D'autres ajoutèrent « Amen sur l'apostate, amen sur elle !» Mais voici un trait qui vous paraîtra bien plus étrange qu'aucun autre. Je ne sais si c'est méchanceté ou illusion. C'est que, quoique je ne fisse rien qui marquât un esprit dérangé, à plus forte raison un esprit obsédé de l'esprit infernal, elles délibérèrent entre elles s'il ne fallait pas m'exorciser. Et il fut conclu, à la pluralité des voix, que j'avais renoncé à mon crème et à mon baptême, que le démon résidait en moi et qu'il m'éloignait des offices divins. Un autre ajouta qu'à certaines prières je grinçais des dents et que je frémissais dans l'église, qu'à l'élévation du Saint-Sacrement je me tordais les bras. Une autre, que je foulais le Christ aux pieds et que je ne portais plus mon rosaire. Qu'on m'avait volé. Que je proférais des blasphèmes que je n'ose vous répéter. Toutes, qu'il se passait en moi quelque chose qui n'était pas naturel et qu'il fallait en donner avis au grand vicaire. Ce qui fut fait. Ce grand vicaire était M. Hébert, homme d'âge et d'expérience, brusque mais juste, mais éclairé. On lui fit le détail du désordre de la maison. Et il est sûr qu'il était grand, et que si j'en étais la cause, c'était une cause bien innocente. Vous vous doutez sans doute qu'on n'omit pas dans le mémoire qui lui fut envoyé mes courses de nuit, mes absences du cœur, le tumulte qui se passait chez moi, ce que l'une avait vu, ce qu'une autre avait entendu, mon aversion pour les choses saintes, mes blasphèmes, les actions obscènes qu'on m'imputait. Pour l'aventure de la jeune religieuse, on en fit tout ce qu'on voulut. Les accusations étaient si fortes et si multipliées qu'avec tout son bon sens, M. Hébert ne put s'empêcher d'y donner en partie et de croire qu'il y avait beaucoup de vrai. La chose lui parut assez importante pour s'en instruire par lui-même. Il fit annoncer sa visite et vint en effet accompagné de deux jeunes ecclésiastiques qu'on avait attachés à sa personne et qui le soulageaient dans ses pénibles fonctions. Quelques jours auparavant, la nuit, j'entendis entrer doucement dans ma chambre. Je ne dis rien, j'attendis qu'on me parlât. Et l'on m'appelait d'une voix basse et tremblante. « Sœur Suzanne, dormez-vous ?»« Non, je ne dors pas. Qui est-ce »« C'est moi. »« Qui, vous ?»« Votre ami qui se meurt de peur et qui s'expose à se perdre pour vous donner un conseil, peut-être inutile. Écoutez, il y a, demain ou après, visite du grand vicaire. » Vous serez accusé. Préparez-vous à vous défendre. Adieu, ayez du courage, et que le Seigneur soit avec vous. » Cela dit, elle s'éloigna avec la légèreté d'une ombre. Vous le voyez, il y a partout, même dans les maisons religieuses, quelques âmes compatissantes que rien n'endurcit. Cependant, mon procès se suivait avec chaleur. Une foule de personnes de tout état, de tout sexe, de toute condition, que je ne connaissais pas, s'intéressèrent à mon sort et sollicitèrent pour moi. Vous fûtes de ce nombre, et peut-être l'histoire de mon procès vous est-elle mieux connue qu'à moi. Car sur la fin, je ne pouvais plus conférer avec M. Manoury. On lui dit que j'étais malade. Il se douta qu'on le trompait. Il trembla qu'on ne m'eût jeté dans le cachot. Il s'adressa à l'archevêché où l'on ne daigna pas l'écouter. On y était prévenu que j'étais folle, ou peut-être quelque chose de pis. Il se retourna du côté des juges. Il insista sur l'exécution de l'ordre signifié à la supérieure de me représenter, morte ou vive, quand elle en serait sommée. Les juges séculiers entreprirent les juges ecclésiastiques. Ceux-ci sentirent les conséquences que cet incident pouvait avoir si on n'allait pas au-devant. Et ce fut là ce qui accéléra apparemment la visite du grand vicaire. Car ces messieurs, fatigués des tracasseries éternelles de couvent, ne se pressent pas communément de s'en mêler. Ils savent, par expérience, que leur autorité est toujours éludée et compromise. Je profitais de l'avis de mon ami pour invoquer le secours de Dieu, rassurer mon âme et préparer ma défense. Je ne demandais au ciel que le bonheur d'être interrogé et entendu sans partialité. Je l'obtins. Mais vous allez apprendre à quel prix. S'il était de mon intérêt de paraître devant mon juge innocent et sage, il n'importait pas moins à ma supérieure qu'on me vît méchante, obsédée du démon, coupable et folle. Aussi, tandis que je redoublais de ferveur et de prière, on redoubla de méchanceté. On ne me donna d'aliments que ce qu'il fallait pour m'empêcher de mourir de faim. On m'excéda de mortification. On multiplia autour de moi les épouvantes. On m'ôta tout à fait le repos de la nuit. Tout ce qui peut abattre la santé et troubler l'esprit, on le mit en œuvre. Ce fut un raffinement de cruauté dont vous n'avez pas d'idée. Jugez du reste par ce trait. Un jour que je sortais de ma cellule pour aller à l'église ou ailleurs, je vis une pincette à terre, en travers dans le corridor. Je me baissai pour la ramasser et la placer de manière que celle qui l'avait égarée la retrouva facilement. La lumière m'empêcha de voir qu'elle était presque rouge. Je la saisis. Mais en la laissant retomber, elle emporta avec elle toute la peau du dedans de ma main dépouillée. On exposait, la nuit, dans les endroits où je devais passer, des obstacles ou à mes pieds ou à la hauteur de ma tête. Je me suis blessée 100 fois. Je ne sais comment je ne me suis pas tuée. Je n'avais pas de quoi m'éclairer et j'étais obligée d'aller en tremblant, les mains devant moi. On semait des vers cassés sous mes pieds. J'étais bien résolue de dire tout cela et je me tins parole à peu près. Je trouvais la porte des commodités fermée et j'étais obligée de descendre plusieurs étages et de courir au fond du jardin quand la porte en était ouverte. Quand elle ne l'était pas... Ah, monsieur, les méchantes créatures que des femmes recluses, qui sont bien sûres de seconder la haine de leurs supérieurs et qui croient servir Dieu en vous désespérant. Il était temps que l'archidiacre arrivât. Il était temps que mon procès finît. Voici le moment le plus terrible de ma vie, car songez bien, monsieur, que j'ignorais absolument sous quelle couleur on m'avait peinte aux yeux de cet ecclésiastique, et qu'il venait avec la curiosité de voir une fille possédée ou qu'il contrefaisait. On crut qu'il n'y avait qu'une forte terreur qui pût me montrer dans cet état. Et voici comment on s'y prit pour me la donner. Le jour de sa visite, dès le grand matin, la supérieure entra dans ma cellule. Elle était accompagnée de 3 sœurs. L'une portait un bénitier, l'autre un crucifix, une troisième des cordes. La supérieure me dit, avec une voix forte et menaçante, « Levez-vous, mettez-vous à genoux et recommandez votre âme à Dieu. »« Madame, lui dis-je, avant que de vous obéir, pourrais-je vous demander ce que je vais devenir, ce que vous avez décidé de moi et ce qu'il faut que je demande à Dieu ?» Une sueur froide se répandit sur tout mon corps. Je tremblais, je sentais mes genoux plier. Je regardais avec effroi ces 3 fatales compagnes. Elles étaient debout sur une même ligne, le visage sombre, les lèvres serrées et les yeux fermés. La frayeur avait séparé chaque mot de la question que j'avais faite. Je crus, au silence qu'on gardait, que je n'avais pas été entendue. Je recommençais les derniers mots de cette question, car je n'eus pas la force de la répéter tout entière. Je dis donc avec une voix faible et qui s'éteignait, « Quelle grâce faut-il que je demande à Dieu ?» On me répondit, « Demandez-lui pardon des péchés de toute votre vie. Parlez-lui comme si vous étiez au moment de comparaître devant lui. » À ces mots, je crus qu'elles avaient tenu conseil et qu'elles avaient résolu de se défaire de moi. J'avais bien entendu dire que cela se pratiquait quelquefois dans les couvents de certains religieux. qu'il jugeait, qu'il condamnait et qu'il suppliciait. Je ne croyais pas qu'on eût jamais exercé cette inhumaine juridiction dans aucun couvent de femmes. Mais il y avait tant d'autres choses que je n'avais pas devinées et qui s'y passaient. À cette idée de mort prochaine, je voulus crier, mais ma bouche était ouverte et il n'en sortait aucun son. J'avançais vers la supérieure, des bras suppliants, et mon corps défaillant se renversait en arrière. Je tombais, mais ma chute ne fut pas dure. Dans ces moments de transe où la force abandonne, insensiblement les membres se dérobent, s'affaissent pour ainsi dire, les uns sur les autres. Et la nature, ne pouvant se soutenir, semble chercher à défaillir mollement. Je perdis la connaissance et le sentiment. J'entendais seulement bourdonner autour de moi des voix confuses et lointaines. Soit qu'elles parlassent, soit que les oreilles me tintassent, je ne distinguais rien que ce tintement qui durait. Je ne sais combien je restais dans cet état, mais j'en fus tiré par une fraîcheur subite qui me causa une convulsion légère et qui m'arracha un profond soupir. J'étais traversée d'eau. Elle coulait de mes vêtements à terre. C'était celle d'un grand bénitier qu'on m'avait répandu sur le corps. J'étais couchée sur le côté, étendue dans cette eau, la tête appuyée contre le mur, la bouche entr'ouverte et les yeux à demi-morts et fermés. Je cherchais à les ouvrir et à regarder, mais il me sembla que j'étais enveloppée d'un air épais, à travers lequel je n'entrevoyais que des vêtements flottants auxquels je cherchais à m'attacher, sans le pouvoir. Je faisais effort du bras sur lequel je n'étais pas soutenue. Je voulais le lever, mais je le trouvais trop pesant. Mon extrême faiblesse diminua peu à peu. Je me soulevais, je m'appuyais le dos contre le mur. J'avais les deux mains dans l'eau, la tête penchée sur la poitrine. Et je poussais une plainte inarticulée, entrecoupée et pénible. Ces femmes me regardaient, d'un air qui marquait la nécessité, l'inflexibilité, et qui m'ôtait le courage de les implorer. La supérieure dit « Qu'on la mette debout !» On me prit sous les bras et l'on me releva. Elle ajouta « Puisqu'elle ne veut pas se recommander à Dieu, tant pis pour elle, vous savez ce que vous avez à faire, achevez !» Je crus que ces cordes qu'on avait apportées étaient destinées à m'étrangler. Je les regardais. Mes yeux se remplirent de larmes. Je demandai le crucifix à baiser. On me le refusa. Je demandai les cordes à baiser. On me les présenta. Je me penchai. Je pris le scapulaire de la supérieure et je le baisai. Je dis « Mon Dieu, ayez pitié de moi. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Chère sœur, tâchez de ne pas me faire souffrir. » Et je présentai mon cou. Je ne saurais vous dire ce que je devins, ni ce qu'on me fit. Il est sûr que ceux qu'on mène au supplice, et je m'y croyais, sont morts avant que d'être exécutés. Je me trouvai sur la paillasse qui me servait de lit, les bras liés derrière le dos, assise, avec un grand Christ de fer sur mes genoux. « Monsieur le marquis, je vois d'ici tout le mal que je vous cause, mais vous avez voulu savoir si je méritais un peu la compassion que j'attends de vous. » Ce fut alors que je sentis la supériorité de la religion chrétienne sur toutes les religions du monde. Quelle profonde sagesse il y avait dans ce que l'aveugle philosophie appelle la folie de la croix. Dans l'état où j'étais, de quoi m'aurait servi l'image d'un législateur heureux et comblé de gloire? Je voyais l'innocent, le flanc percé, le front couronné d'épines, les mains et les pieds percés de clous et expirant dans les souffrances, et je me disais « Voilà mon Dieu, et j'ose me plaindre !» Je m'attachai à cette idée, et je sentis la consolation renaître dans mon cœur. Je connus la vanité de la vie, et je me trouvai trop heureuse de la perdre avant que d'avoir eu le temps de multiplier mes fautes. Cependant, je comptais mes années, je trouvai que j'avais à peine 20 ans, et je soupirais. J'étais trop affaiblie, trop abattu pour que mon esprit pût s'élever au-dessus des terreurs de la mort. En pleine santé, je crois que j'aurais pu me résoudre avec plus de courage. Cependant, la supérieure et ses satellites revinrent. Elles me trouvèrent plus de présence d'esprit qu'elles ne s'y attendaient et qu'elles ne m'en auraient voulu. Elles me levèrent debout. On m'attacha mon voile sur le visage. Deux me prirent sous les bras. Une troisième me poussait par derrière. Et la supérieure m'ordonnait de marcher. J'allais sans voir où j'allais. Mais croyant aller au supplice, et je disais « Mon Dieu, ayez pitié de moi, mon Dieu, soutenez-moi. Mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Mon Dieu, pardonnez-moi si je vous ai offensé. » J'arrivais dans l'église. Le grand vicaire y avait célébré la messe. La communauté y était assemblée. J'oubliais de vous dire que quand je fus à la porte, ces trois religieuses qui me conduisaient me serraient, me poussaient avec violence, semblaient se tourmenter autour de moi et m'entraînaient les unes par les bras tandis que d'autres me retenaient par derrière, comme si j'avais résisté et que j'eusse répugné à entrer dans l'église. Cependant, il n'en était rien. On me conduisit vers les marches de l'autel. J'avais peine à me tenir debout. Et l'on me tirait à genoux, comme si je refusais de m'y mettre. On me tenait comme si j'avais eu le dessein de fuir. On chanta le Veni Creator, on exposa le Saint-Sacrement, on donna la bénédiction. Au moment de la bénédiction, où l'on s'incline par vénération, celles qui m'avaient saisi par le bras me courbèrent comme de force, et les autres m'appuyaient les mains sur les épaules. Je sentais ces différents mouvements, mais il m'était impossible d'en deviner la fin. Enfin, tout s'éclaircit. Après la bénédiction, le grand vicaire se dépouilla de sa chasuble, se revêtit seulement de son aube et de son étole, et s'avança vers les marches de l'autel où j'étais à genoux. Il était entre les deux ecclésiastiques, le dos tourné à l'autel, sur lequel le Saint-Sacrement était exposé, et le visage de mon côté. Il s'approcha de moi et me dit « Sœur Suzanne, levez-vous. » Les sœurs qui me tenaient me levèrent brusquement. D'autres m'entouraient et me tenaient embrassées par le milieu du corps, comme si elles eussent craint que je m'échappe. Il ajouta « Qu'on la délie. » On ne lui obéissait pas. On feignait de voir de l'inconvénient, ou même du péril à me laisser libre. Mais je vous ai dit que cet homme était brusque. Il répéta d'une voix ferme et dure « Qu'on la délie !» On obéit. À peine eus-je les mains libres que je poussai une plainte douloureuse et aiguë qui le fit pâlir, et les religieuses hypocrites qui m'approchaient s'écartèrent comme effrayées. Il se remit. Les sœurs revinrent comme en tremblant. Je demeurais immobile et il me dit « Qu'avez-vous ?» Je ne lui répondis qu'en lui montrant mes deux bras. La corde dont on me les avait garrottés m'était entrée presque entièrement dans les chairs et ils étaient tout violés du sang qui ne circulait plus et qui s'était extravasé. Il conçut que ma plainte venait de la douleur subite du sang qui reprenait son cours. Il dit « Qu'on lui lève son voile. » On l'avait cousu en différents endroits, sans que je m'en aperçusse, et l'on apporta encore bien de l'embarras et de la violence à une chose qui n'en exigeait que parce qu'on y avait pourvu. Il fallait que ce prêtre me vît obsédée, possédée ou folle. Cependant, à force de tirer, le fil manqua en quelques endroits. Le voile ou mon habit se déchirèrent en d'autres, et l'on me vit. J'ai la figure intéressante. La profonde douleur l'avait altérée, mais ne lui avait rien noté de son caractère. J'ai un son de voix qui touche. On sent que mon expression est celle de la vérité. Ces qualités réunies firent une forte impression de pitié sur les jeunes acolytes de l'archidiacre. Pour lui, il ignorait ses sentiments. Juste, mais peu sensible. Il était du nombre de ceux qui sont assez malheureusement nés pour pratiquer la vertu, sans en éprouver la douceur. Ils font le bien par esprit d'ordre, comme ils raisonnent. Il prit la manche de son étole et, me la posant sur la tête, il me dit « Sœur Suzanne, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ?» Je répondis « J'y crois. » « Croyez-vous en notre Mère Sainte Église ?» « J'y crois. » « Renoncez-vous à Satan et à ses œuvres ?» Au lieu de répondre, je fis un mouvement subit en avant. Je poussai un grand cri, et le bout de son étole se sépara de ma tête. Il se troubla. Ses compagnons pâlirent. Entre les sœurs, les unes s'enfuirent, et les autres, qui étaient dans leur stall, les quittèrent avec le plus grand tumulte. Il fit signe qu'on se rapaisa. Cependant, il me regardait. Il s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Je le rassurai en lui disant « Monsieur, ce n'est rien. C'est une de ces religieuses qui m'a piqué vivement avec quelque chose de pointu. » Et levant les yeux et les mains au ciel, j'ajoutai en versant un torrent de larmes « C'est qu'on m'a blessée au moment où vous me demandiez si je renonçais à Satan et à ses pompes, et je vois bien pourquoi. » Toutes protestèrent par la bouche de la supérieure qu'on ne m'avait pas touchée. L'archidiacre me remit le bas de son étole sur la tête. Les religieuses allaient se rapprocher, mais il leur fit signe de s'éloigner. Et il me redemanda si je renonçais à Satan et à ses œuvres, et je lui répondis fermement « J'y renonce, j'y renonce !» Il se fit apporter un Christ et me le présenta à baiser. Et je le baisai sur les pieds, sur les mains et sur la plaie du côté. Il m'ordonna de l'adorer à voix haute. Je le posai à terre et je dis à genoux « Mon Dieu, mon Sauveur, vous qui êtes mort sur la croix pour mes péchés et pour tous ceux du genre humain, je vous adore. Appliquez-moi le mérite des tourments que vous avez soufferts. Faites couler sur moi une goutte du sang que vous avez répandu et que je sois purifié. Pardonnez-moi, mon Dieu, comme je pardonne à tous mes ennemis. » Il me dit ensuite « Faites un acte de foi. » Et je le fis. « Faites un acte d'amour. » Et je le fis. « Faites un acte d'espérance. » Et je le fis. « Faites un acte de charité. » Et je le fis. Je ne me souviens point en quels termes ils étaient conçus, mais je pense qu'apparemment ils étaient pathétiques, car j'arrachais des sanglots de quelques religieuses. Les deux jeunes ecclésiastiques en versèrent des larmes, et l'archidiacre, étonné, me demanda d'où j'avais tiré les prières que je venais de réciter. Je lui dis « Du fond de mon cœur, ce sont mes pensées et mes sentiments. J'en atteste Dieu qui nous écoute partout et qui est présent sur cet autel. Je suis chrétienne, je suis innocente. Si j'ai fait quelque faute, Dieu seul les connaît. Et il n'y a que lui qui soit en droit de m'en demander compte et de les punir. » À ces mots, il jeta un regard terrible sur la supérieure. Le reste de cette cérémonie, où la majesté de Dieu venait d'être insultée, les choses les plus saintes profanées et le ministre de l'Église bafoué, s'acheva. Et les religieuses se retirèrent, excepté la supérieure, moi et les jeunes ecclésiastiques. L'archidiacre s'assit et, tirant le mémoire qu'on lui avait présenté contre moi, il le lut à haute voix et m'interrogea sur les articles qu'il contenait. « Pourquoi, me dit-il, ne vous confessez-vous point ?»« C'est qu'on m'en empêche. » Pourquoi n'approchez-vous point des sacrements ? C'est qu'on m'en empêche. Pourquoi n'assistez-vous ni à la messe, ni aux offices divins ? C'est qu'on m'en empêche. La supérieure voulut prendre la parole, mais il lui dit avec son ton « Madame, taisez-vous. Pourquoi sortez-vous la nuit de votre cellule ? C'est qu'on m'a privé d'eau, de pot à l'eau et de tous les vaisseaux nécessaires aux besoins de la nature. Pourquoi entend-on du bruit la nuit dans votre dortoir et dans votre cellule ? C'est qu'on s'occupe à m'ôter le repos. » La supérieure voulut encore parler. Il lui dit pour la seconde fois « Madame, je vous ai déjà dit de vous taire. Vous répondrez quand je vous interrogerai. » « Qu'est-ce qu'une religieuse qu'on a arrachée de vos mains et qu'on a trouvée renversée à terre dans le corridor? C'est la suite de l'horreur qu'on lui avait inspirée de moi.
Est-elle votre amie?
Non, monsieur. N'êtes-vous jamais entré dans sa cellule?
Jamais.
Ne lui avez-vous jamais fait rien d'indécent, soit à elle, soit à d'autres?
Jamais.
Pourquoi vous a-t-on lié?
Je l'ignore.
Pourquoi votre cellule ne ferme-t-elle pas?
C'est que j'en ai brisé la serrure.
Pourquoi l'avez-vous brisée?
Pour ouvrir la porte et assister à l'office le jour de l'ascension.
Vous vous êtes donc montré à l'église ce jour-là?
Oui, monsieur.
La supérieure dit: « Monsieur, cela n'est pas vrai. Toute la communauté... »
Je l'interrompis.
« Assurera que la porte du cœur était fermée, qu'elles m'ont trouvé prosternée à cette porte et que vous leur avez ordonné de marcher sur moi, ce que quelques-unes ont fait. Mais je leur pardonne, et à vous, madame, de l'avoir ordonné. Je ne suis pas venue pour accuser, mais pour me défendre. »
Pourquoi n'avez-vous ni rosaire ni crucifix?
C'est qu'on me les a ôtés.
Où est votre bréviaire?
On me l'a ôté.
Comment priez-vous donc?
Je fais ma prière de cœur et d'esprit, quoiqu'on m'ait défendu de prier.
Qui est-ce qui vous a fait cette défense?
Madame.
La supérieure allait encore parler.
Madame, lui dit-il, est-il vrai ou faux que vous lui ayez défendu de prier? Dites oui ou non.
Je croyais, j'avais raison de croire.
Il ne s'agit pas de cela. Lui avez-vous défendu de prier, oui ou non?
Je lui ai défendu, mais...
Elle allait continuer.
Mais, reprit l'archidiacre, mais...
Sœur Suzanne, pourquoi êtes-vous pieds nus?
C'est qu'on ne me fournit ni bas ni souliers.
Pourquoi votre linge et vos vêtements sont-ils dans cet état de vétusté et de malpropreté?
C'est qu'il y a plus de 3 mois qu'on me refuse du linge et que je suis forcée de coucher avec mes vêtements.
Pourquoi couchez-vous avec vos vêtements?
C'est que je n'ai ni rideau, ni matelas, ni couverture, ni drap, ni linge de nuit.
Pourquoi n'en avez-vous point?
C'est qu'on me les a ôtés.
Êtes-vous nourrie?
Je demande à l'être.
Vous ne l'êtes donc pas?
Je me tus, et il ajouta. Il est incroyable qu'on en ait usé avec vous si sévèrement, sans que vous ayez commis quelque faute qui l'ait méritée.
Ma faute est de n'être point appelée à l'état religieux, et de revenir contre des vœux que je n'ai pas faits librement.
C'est aux lois à décider cette affaire, et de quelque manière qu'elle prononce, il faut, en attendant, que vous remplissiez les devoirs de la vie religieuse.
Personne, monsieur, n'y est plus exact que moi.
Il faut que vous jouissiez du sort de toutes vos compagnes.
C'est tout ce que je demande.
N'avez-vous à vous plaindre de personne?
Non, monsieur, je vous l'ai dit, je ne suis point venu pour accuser, mais pour me défendre.
Allez.
Monsieur, où faut-il que j'aille?
Dans votre cellule.
Je fis quelques pas, puis je revins, et je me prosternai aux pieds de la supérieure et de l'archidiacre.
« Eh bien, me dit-il, qu'est-ce qu'il y a ?»
Je lui dis, en lui montrant ma tête meurtrie en plusieurs endroits, mes pieds ensanglantés, mes bras livides et sans chair, mon vêtement sale et déchiré.
« Vous voyez ?»«
Je vous entends, vous, monsieur le marquis, et la plupart de ceux qui liront ces mémoires. »
Des horreurs si multipliées, si variées, si continues, une suite d'atrocités si recherchées dans les âmes religieuses,
cela n'est pas vraisemblable, diront-ils.
Dites-vous.
Et j'en conviens, mais cela est vrai. Et puisse le ciel, que j'atteste, me juger dans toute sa rigueur et me condamner aux feux éternels si j'ai permis à la calomnie de ternir une de mes lignes de son ombre la plus légère. Quoique j'ai longtemps éprouvé combien l'aversion d'une supérieure était un violent aiguillon à la perversité naturelle, surtout lorsque celle-ci pouvait se faire un mérite, s'applaudir et se vanter de ses forfaits, le ressentiment ne m'empêchera point d'être juste. Plus j'y réfléchis, plus je me persuade que ce qui m'arrive n'était point encore arrivé, et n'arriverait peut-être jamais. Une fois, et plût à Dieu que ce soit la première et la dernière, il plût à la Providence, dont les voies nous sont inconnues, de rassembler sur une seule infortunée toute la masse de cruautés réparties, dans ses impénétrables décrets sur la multitude infinie de malheureuses qu'il avait précédées dans un cloître et qui devaient lui succéder. J'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. Mais le sort de mes persécutrices me paraît et m'a toujours paru plus à plaindre que les miens. J'aimerais mieux. J'aurais mieux aimé mourir que de quitter mon rôle à la condition de prendre le leur. Mes peines finiront, je l'espère, de vos bontés. La mémoire, la honte et le remords du crime leur resteront jusqu'à l'heure dernière. Elles s'accusent déjà, n'en doutez pas. Elles s'accuseront toute leur vie, et la terreur descendra sous la tombe avec elles. Cependant, monsieur le marquis, ma situation présente est déplorable. La vie m'est à charge, je suis une femme. J'ai l'esprit faible comme celle de mon sexe. Dieu peut m'abandonner, je ne me sens ni la force ni le courage de supporter encore longtemps ce que j'ai supporté. Monsieur le marquis, craignez qu'un fatal moment ne revienne. Quand vous useriez vos yeux à pleurer sur ma destinée, quand vous seriez déchiré de remords, je ne sortirais pas pour cela de l'abîme où je serais tombé. Il se fermerait à jamais sur une désespérée. Allez, me dit l'archidiacre. Un des ecclésiastiques me donna la main pour me relever, et l'archidiacre ajouta: je vous ai interrogé, je vais interroger votre supérieur, et je ne sortirai point d'ici que l'ordre n'y soit rétabli. Je me retirai. Je trouvai le reste de la maison en alarme. Toutes les religieuses étaient sur le seuil de leur cellule. Elles se parlaient d'un côté du corridor à l'autre. Aussitôt que je parus, elles se retirèrent, et il se fit un long bruit de portes qui se fermaient les unes après les autres avec violence. Je rentrai dans ma cellule. Je me mis à genoux contre le mur et je priai Dieu d'avoir égard à la modération avec laquelle j'avais parlé à l'archidiacre et de lui faire connaître mon innocence et la vérité. Je priai lorsque l'archidiacre, ses deux compagnons et la supérieure parurent dans ma cellule. Je vous ai dit que j'étais sans tapisserie, sans chaise, sans prie-dieu, sans rideau, sans matelas, sans couverture, sans drap, sans aucun vaisseau, sans porte qui fermât, presque sans vitre entière à mes fenêtres. Je me levai, et l'archidiacre, s'arrêtant en tout court et tournant des yeux d'indignation sur la supérieure, lui dit: « Eh bien, madame ? » Elle répondit: « Je l'ignorais. » « Vous l'ignoriez ? Vous mentez ! Avez-vous passé un jour sans entrer ici, et n'en descendiez-vous pas quand vous êtes venue ? Sœur Suzanne, parlez, madame, n'est-elle pas entrée ici aujourd'hui ?» Je ne répondis rien, il n'insista pas. Mais les jeunes ecclésiastiques, laissant tomber leurs bras, la tête baissée et les yeux fixés en terre, décelaient assez leur peine et leur surprise. Ils sortirent tous, et j'entendis l'archidiacre qui disait à la supérieure dans le corridor: « Vous êtes indigne de vos fonctions, vous mériteriez d'être déposée, j'en porterai mes plaintes à monseigneur. Que tout ce désordre soit réparé avant que je sois sortie. » Et continuant de marcher, et branlant sa tête, il ajoutait: « Cela est horrible, des chrétiennes, des religieuses, des créatures humaines. Cela est horrible !» Depuis ce moment, je n'entendis plus parler de rien. Mais j'eus du linge, d'autres vêtements, des rideaux, des draps, des couvertures, des vaisseaux, mon bréviaire, mes livres de piété, mon rosaire, mon crucifix, des vitres. En un mot, tout ce qui me rétablissait dans l'état commun des religieuses. La liberté du parloir me fut aussi rendue, mais seulement pour mes affaires. Elles allaient mal. Monsieur Manoury publia un premier mémoire qui fit peu de sensation. Il y avait trop d'esprit, pas assez de pathétique, presque point de raison. Il ne faut pas s'en prendre tout à fait à cet habile avocat. Je ne voulais point absolument qu'il attaquât la réputation de mes parents. Je voulais qu'il ménageât l'état religieux et surtout la maison où j'étais. Je ne voulais pas qu'il peignît de couleurs trop odieuses mes beaux-frères et mes sœurs. Je n'avais en ma faveur qu'une première protestation, solennelle à la vérité, mais faite dans un autre couvent et nullement renouvelée depuis. Quand on donne des bornes si étroites à ses défenses et qu'on a affaire à des partis qui n'en mettent aucune dans leur attaque, qui foulent aux pieds le juste et l'injuste, qui avancent et nient avec la même impudence et qui ne rougissent ni des imputations, ni des soupçons, ni de la médisance, ni de la calomnie, il est difficile de l'emporter. Surtout à des tribunaux où l'habitude et l'ennui des affaires ne permettent presque pas qu'on examine avec quelques scrupules les plus importantes. Et où les contestations de la nature de la mienne sont toujours regardées d'un œil défavorable par l'homme politique. Qui craint que sur le succès d'une religieuse réclamant contre ses vœux, une infinité d'autres ne soient engagées dans la même démarche? On sent secrètement que si l'on souffrait que les portes de ces prisons s'abattissent en faveur d'une malheureuse, la foule s'y porterait et chercherait à les forcer. On s'occupe à nous décourager et à nous résigner tout à notre sort par le désespoir de le changer. Il me semble pourtant que dans un état bien gouverné, ce devrait être le contraire. Entrer difficilement en religion et en sortir facilement. Et pourquoi ne pas ajouter ce cas à tant d'autres, où le moindre défaut de formalité anéantit une procédure, même juste d'ailleurs? Les couvents sont-ils donc si essentiels à la constitution d'un état? Jésus-Christ a-t-il institué des moines et des religieuses? L'Église ne peut-elle absolument s'en passer? Quel besoin a l'époux de tant de vierges folles et l'espèce humaine de tant de victimes? Ne sentira-t-on jamais la nécessité de rétrécir l'ouverture de ces gouffres où les races futures vont se perdre? Toutes les prières de routine qui se font là valent-elles une obole que la commisération de nos pauvres? Dieu, qui a créé l'homme sociable, approuve-t-il qu'il se renferme? Dieu qui l'a créé si inconstant, si fragile, peut-il autoriser la témérité de ses vœux? Ses vœux qui heurtent la pente générale de la nature, peuvent-ils jamais être bien observés que par quelque créature mal organisée en qui les germes des passions sont flétris et qu'on rangerait à bon droit parmi les monstres, si nos lumières nous permettaient de connaître aussi facilement et aussi bien la structure intérieure de l'homme que sa forme extérieure? Toutes ces cérémonies lugubres qu'on observe à la prise d'habits et à la profession, quand on consacre un homme ou une femme à la vie monastique et au malheur, suspendent-elles les fonctions animales? Au contraire, ne se réveille-t-elle pas dans le silence, la contrainte et l'oisiveté, avec une violence inconnue aux gens du monde, qu'une foule de distractions emporte? Où est-ce qu'on voit des têtes obsédées par des spectres impurs qui les suivent et qui les agitent? Où est-ce qu'on voit cet ennui profond, cette pâleur, cette maigreur, tous ces symptômes de la nature qui languit et se consume? Où les nuits sont-elles troublées par des gémissements, les jours trempés de larmes versées sans cause et précédées d'une mélancolie qu'on ne sait à quoi attribuer? Où est-ce que la nature, révoltée d'une contrainte pour laquelle elle n'est point faite, brise les obstacles qu'on lui oppose, devient furieuse, jette l'économie animale dans un désordre auquel il n'y a plus de remède. En quel endroit le chagrin et l'humeur ont-ils anéanti toutes les qualités sociales? Où est-ce qu'il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni parent, ni ami? Où est-ce que l'homme, ne se considérant que comme un être d'un instant et qui passe, traite les liaisons les plus douces de ce monde comme un voyageur les objets qu'il rencontre, sans attachement? Où est le séjour de la haine, du dégoût et des vapeurs? Où est le lieu de la servitude et du despotisme? Où sont les haines qui ne s'éteignent point? Où sont les passions couvées dans le silence? Où est le séjour de la cruauté et de la curiosité? On ne sait pas l'histoire de ces asiles, disait ensuite M. Manoury dans son plaidoyer. On ne la sait pas. Il ajoutait dans un autre endroit, faire vœu de pauvreté, c'est s'engager par serment à être paresseux et voleur. Faire vœu de chasteté, c'est promettre à Dieu l'infraction constante de la plus sage et de la plus importante de ses lois. Faire vœu d'obéissance, c'est renoncer à la prérogative inaliénable de l'homme, la liberté. Si l'on observe ses vœux, on est criminel. Si on ne les observe pas, on est parjure. La vie claustrale est d'un fanatique ou d'un hypocrite. Une fille demanda à ses parents la permission d'entrer parmi nous. Son père lui dit qu'il y consentait, mais qu'il lui donnait 3 ans pour y penser. Cette loi parut dure à la jeune personne, pleine de ferveur. Cependant, il fallut s'y soumettre. Sa vocation ne s'étant point démentie, elle retourna à son père, et elle lui dit que les 3 ans étaient écoulés. « Voilà qui est bien, mon enfant, lui répondit-il. Je vous ai accordé 3 ans pour vous éprouver. J'espère que vous voudrez bien en accorder autant pour me résoudre. » Cela parut encore beaucoup plus dur, et il y eut des larmes répandues. Mais le père était un homme ferme qui tint bon. Au bout de ces 6 années, elle entra, elle fit profession. C'était une bonne religieuse, simple, pieuse, exacte à tous ses devoirs. Mais il arriva que les directeurs abusèrent de sa franchise pour s'instruire au tribunal de la pénitence de ce qui se passait dans la maison. Nos supérieurs s'en doutèrent. Elle fut enfermée, privée des exercices de la religion. Elle en devint folle. Et comment la tête résisterait-elle aux persécutions de 50 personnes qui s'occupent depuis le commencement du jour jusqu'à la fin à vous tourmenter? Auparavant, on avait tendu à sa mère un piège qui marque bien l'avarice des cloîtres. On inspira à la mère de cette recluse le désir d'entrer dans la maison et de visiter la cellule de sa fille. Elle s'adressa au grand vicaire qui lui accordèrent la permission qu'elle sollicitait. Elle entra. Elle courut à la cellule de son enfant. Mais quel fut son étonnement de n'y voir que les 4 murs tout nus. On en avait tout enlevé. On se doutait bien que cette mère, tendre et sensible, ne laisserait pas sa fille dans cet état. En effet, elle la remeubla, la remit en vêtements et en linge, et protesta bien aux religieuses que cette curiosité lui coûtait trop cher pour la voir une seconde fois, et que 3 ou 4 visites par an comme celle-là ruineraient ses frères et ses sœurs. C'est là que l'ambition et le luxe se sacrifient une portion des familles pour faire à celles qui restent un sort plus avantageux. C'est la sentine où l'on jette le rebut de la société. Combien de mères comme la mienne expient un crime secret par un autre?